Chronique du Pays Toulousain. Une émission proposée par les Toulousains de Toulouse avec Aline Thomazin et Sébastien Pénary.
Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle chronique du Pays Toulousain avec les Toulousains de Toulouse en compagnie d'Aline Thomazin. Bonjour Aline.
Bonjour Sébastien.
Et bonjour Rémi Pêche.
Bonjour Sébastien.
Nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui l'éminent professeur d'histoire moderne et contemporaine de l'université Jean Jaurès, à qui on doit d'ailleurs une magnifique biographie de Jean Jaurès, Jaurès paysan, que nous vous recommandons. Et nous recevons aujourd'hui Rémi Pêche pour nous parler de l'histoire très intime de Toulouse avec le rugby, puisque Rémi Pêche a publié aux éditions Midi-Pyrénéennes un tout petit livre, 1912, premier d'une longue liste, Le Brennus au stade toulousain. Alors Rémi Pêche, la genèse de ce rugby à Toulouse, c'est le lycée Pierre de Fermat, je crois.
Oui, le rugby a été pratiqué au départ par des lycéens, c'est-à-dire par des fils de bourgeois. Alors, à part quelques rares boursiers, c'était tous des fils de bourgeois, sur un rayonnement assez vaste, puisqu'on trouve, par exemple, ça m'a beaucoup intéressé, des fils de propriétaires viticoles dans l'Aude. Hein, t'as la vigne, il y en a deux ou trois, de Fosières qui venaient de l'Hérault, c'était des gens un peu huppés. Alors comment ont-ils eu envie de jouer au rugby? On a des souvenirs, le colonel Cahuzac, par exemple, a écrit un article pour les anciens de Fermat, qui était très intéressant. Ils avaient un surveillant, enfin plus que ça, c'était un répétiteur, hein, c'était presque un professeur, qui avait été au Havre et à Paris, qui sont les débuts du rugby en France, puisque là ce sont vraiment les Anglais qui ont fondé, puisque le Havre Athletic Club a pris les couleurs d'Oxford et de Cambridge, bleu ciel et bleu foncé. C'est significatif. Ouais. C'était des négociants, des sujets. C'était pas sa gracieuse majesté, puisque c'était. Et si, c'était
la reine Victoria,
oui, en 1872. Et puis, à Paris, le Racing, le Stade français. J'ai eu le plaisir d'ailleurs de jouer moi-même sur le stade de la Faisanderie à Saint-Cloud, qui était le premier stade du rugby à Paris. Et qui existait encore dans les années 1960, où j'étais à Saint-Cloud, moi. Alors, c'est Clostre qui était le répétiteur, qui a fait envoyer les premiers ballons de rugby qui ont été fournis, qui ont été donnés en cadeau par le Racing Club de France aux lycéens de Toulouse. Et ce qui a joué énormément pour le rugby toulousain, c'est que le lycée, qui ensuite s'est appelé Pierre de Fermat, était à deux pas de la prairie des Filtres. Mais encore fallait-il que le proviseur accepte cette révolution qui consistait à laisser jouer à un jeu qui paraissait quand même un petit peu dangereux, etc. Et il fallait laisser les bouquins pendant un certain temps. Et on a les textes des proviseurs, et il y en a un qui décrit vraiment l'utilité du rugby pour le moral des joueurs. Je ne sais pas si je le cite dans ce petit bouquin, je n'ai pas eu beaucoup de place. Il dit qu'il a connu des élèves absolument turbulents, dont on ne pouvait rien faire, et à partir du moment où ils ont pris des responsabilités dans l'équipe de rugby, ils sont devenus sérieux, ils sont devenus coopératifs avec leurs collègues, etc. Donc c'est toutes les vertus du rugby qui sont passées dans ce rugby primitif, en fait,
de cours d'école, si on peut dire, voilà, dans le cloître des Jacobins.
Et alors, absolument. Et ensuite, ces lycéens sont allés évidemment dans les universités, et dans les universités, ils ont trouvé des grands profs qui les ont encouragés. Le plus grand étant Ernest Vallon, puisque Ernest Vallon n'a pas hésité à sacrifier une partie de sa fortune, qui était importante. Et Ernest Vallon était un protestant de Montauban, enfin, il fait partie de cette bourgeoisie fortunée de Montauban. Et c'est lui qui a financé en grande partie, mais en entraînant aussi, dans un esprit de rugby, des collègues qu'il connaissait de la bourgeoisie toulousaine. Hein, en particulier le professeur Audry de la fac de médecine. Il y avait cette doctrine qu'on a appelée hygiéniste, qui favorisait beaucoup le rugby. Et donc, je disais que Vallon avait été le financeur du premier stade qui, très justement, a repris le nom de, d'Ernest Vallon aujourd'hui. Voilà.
Et alors, entre le rugby de cour d'école, la prairie des filtres qui a dû être aussi un moment, et le stade Ernest Vallon, est-ce qu'il n'y a pas eu un mouvement de création de clubs? Comment est-ce qu'on est passé d'un rugby joué par des lycéens,
oui,
à un rugby plus organisé et un rugby plus spectacle, plus parti?
Qui a échémé. Bon, alors, vous faites bien d'employer l'expression spectacle, parce que la prairie des filtres, qui était à ce moment-là une vraie prairie, c'était d'ailleurs un terrain d'entraînement militaire. Les militaires ont joué un rôle assez effacé à Toulouse, mais ils accordaient l'autorisation de jouer sur ce terrain. Et le terrain, il était improvisé à chaque fois. On traçait les lignes, c'est expliqué par Van Venel, qui était un médecin et qui est un des premiers joueurs de rugby et qui a été vraiment un moteur. Et puis un grand journaliste qui publiait des articles. Alors, je crois qu'il y a eu cet engouement autour de la prairie des filtres parce que c'était un stade naturel et avec des tribunes qui étaient le Cordillon.
Et donc ce stade naturel a dû favoriser le rassemblement dans ce qui a été des clubs finalement.
Oui.
C'est cette période-là qui est importante aussi pour le stade, je crois. Après ce que j'ai pu
dire. Bien sûr, oui. Mais alors, ils ont. Les premiers clubs, ça a été le Soët. Souvent, on dit le stade olympique, mais ce n'est pas olympique, c'est olympien. Ah, il y avait la référence.
Il y a les marches grecques.
À l'Antiquité, la marque grecque. Et puis, vraiment, c'était les athlètes qui étaient des demi-dieux, finalement. Enfin, dans leur esprit. C'était un peu ironique, bien sûr. Le Soët, qui était le club des étudiants dans les facultés de lettres, de sciences, médecine, et le quel est l'autre club?
Le SAT, je crois.
Oui, il y en a dans le
sport athlétique toulousain.
Sport athlétique toulousain.
Le SAT, qui était les anciens élèves du lycée, disséminés dans la société. Hein?
Et les vétérinaires.
Et les vétérinaires. Alors, les vétérinaires, moi, je crois qu'ils ont été très importants, dans la mesure où ce sont des intellectuels manuels. Hein, c'était pour faire accoucher une vache, il ne faut pas y aller avec une brosse à dents. Hein, il faut y aller. Bon, donc, je crois que là, c'était très important. Et puis, c'était des intellectuels aussi en contact avec le peuple. Le peuple des chevillards, oui, des bouchers, et de tout ce qui tournait autour des abattoirs. Bon, il suffit d'ailleurs de voir le musée des abattoirs aujourd'hui en imaginant. Moi, je l'ai encore connu, et vous aussi, Aline.
Oui, moi aussi.
C'était quand même une sacrée usine de viande. Et avec beaucoup d'emplois, etc. Et il y avait un engouement, une identification. Et les clubs de Saint-Cyprien, les premiers stades, Castelardit, ensuite, qui n'est pas loin, et ont été les récollés de l'autre côté. C'est ce quartier qui a nourri un petit peu la fibre populaire du rugby à Toulouse, à la fois comme spectacle et comme participant. Et en 14, déjà, il y avait des clubs. Des clubs d'usines, des clubs de magasins, des clubs qui avaient des références finalement dans la société et qui marquaient déjà une certaine démocratisation et qui devient évidente dans l'entre-deux-guerres où les équipes du stade, qui étaient dans sa première très grande période entre 1920 et 1930, où il y a Saint-Brenus qui arrive à Toulouse, là, vous avez des employés, hein, des employés municipaux, parfois Lubin Lebrère, qu'on appelait le maire un petit peu pour le taquiner. Il n'était pas maire, il était employé à la mairie. Et puis, il y avait des fonctionnaires, des ouvriers, quelques ouvriers, etc. Donc
une discipline qui fédère toutes les couches sociales.
Oui, qui traverse toute la société toulousaine. Alors, évidemment, au départ, on a l'impression d'un sport d'élite, et c'est vrai, hein, puisque dans les lycées, il n'y avait que des fils de bourgeois, mais très vite, on a cette fraternisation, cette démocratisation qui s'est déroulée à Toulouse plus qu'ailleurs.
Et donc, tous ces clubs fédérés ont formé le Stade, si j'ai bien compris. Le Stade toulousain.
Ah ben, ils ont
et l'héritier de ce noyau.
De matrice, de noyau. Et ça continue d'ailleurs. Il y a une. Comment dirais-je, une capillarité qui fait arriver à l'excellence des petits joueurs de quartier, etc., bien entraînés, et qui, avec le Stade, c'est le phare du rugby toulousain, c'est le club doyen, c'est le meilleur club qui a eu des hauts et des bas dans l'histoire. Mais enfin, globalement, quand même, c'est quand même fascinant que sur plus d'un siècle, c'est un club qu'on retrouve toujours dans les phases finales, et qu'on retrouve souvent au Brennus, donc qui est le trophée créé à Paris par un certain Brennus, c'était son prénom, c'était pas son nom, hein, Crosnier. Et on l'a vu souvent à Toulouse, parce qu'il a arbitré, quand il est venu de jouer, il a arbitré. Et donc, il y a cet engouement, moi je suis extrêmement frappé par le fait que, actuellement, il y a cette crise du Covid qui nous embête tous, et les clubs de rugby en premier. Didier Lacroix a eu l'idée de faire le mur, et que chacun apporte une brique. Mais il y a 20 000 Toulousains qui ont cotisé pour faire. Et ça, je crois qu'on ne le trouverait pas partout. Hein. Alors, ça donc, fait quand même une proportion énorme de la population.
Donc ça veut dire, en vous écoutant et en ayant le plaisir de vous écouter sur ce sujet, que finalement le rugby, il fait partie de l'ADN de la
Absolument.
Société toulousaine, parce que c'est vraiment des événements, ce sont des moments qui permettent de fédérer au-delà de toutes les distinctions sociales, de tous les niveaux d'éducation.
Mais bien sûr.
C'est le phénomène rugby. Merci infiniment, Rémi Pêche. On a eu grand plaisir à vous écouter. 12 minutes, c'est beaucoup trop court pour le rugby à Toulouse. Mais il faudra revenir pour nous en reparler.
Écoutez, invitez-moi quand vous voulez sur les sujets que je connais un peu, hein, parce que c'est un sujet que je ne connais pas et au mieux que je ne parle pas.
Merci infiniment, merci.
Bonne semaine à tous.